3. La poupée de chiffon. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Perrault. L'escouade parvint au pied du château à la nuit close. Après avoir traversé le village des artisans, récemment transformé en cantonnement de troupes, les cavaliers se présentèrent devant la barbacane. Il fallut crier et négocier un moment pour que les veilleurs ouvrissent les portes. Afin de se garder des traîtrises, l'usage était de n'autoriser personne à entrer du coucher au lever du soleil, surtout en période de guerre. Toutefois, laisser piétiner les émissaires du comte devant le seuil jusqu'à l'aube eût exposé les sergents au courroux du suzerain. Contre la coutume, les trois chevaliers et leurs gens eurent donc accès à la place forte en dépit de l'heure tardive. Au plus noir de la nuit, on sentait l'énorme masse du château plus qu'on ne la voyait. Des flambeaux ou des brasières situés à diverses altitudes éclairaient des pans de murs en bois ou en pierre de taille, ouvraient dans les ténèbres des archères et des embrasures brillantes, esquissaient la panse colossale d'une tour loin au-dessus des têtes. Être introduit nuitamment dans la forteresse donnait l'impression un peu fausse de s'engager dans un labyrinthe inachevé. La première porte donnait sur une courette palissadée à la diable, qui ressemblait à une bastille de siège. Un second seuil, défendu par un châtelet de bois plus important, livrait passage à une basse-cour plus vaste, d'architecture composite. À l'est, plusieurs bâtiments à colombage s'accotaient contre une palissade plus forte que celle de la barbacane. Les braises d'un foyer y éclairaient vaguement l'antre noir d'une forge. Mais à l'ouest, la place se trouvait surplombée par l'énorme volume d'un rempart. Les fortifications du sud de la cour paraissaient constituées de briques et de brocs. Une courtine et une tour à demi bâties s'y trouvaient exhaussées par une galerie et un étage de bois. Entre ces murs, il restait peu d'espace pour circuler, car une garnison importante campait à la belle étoile. À l'esprit minéral de la pierre et au parfum des charpentes neuves se mêlaient des odeurs de crottin, de fricot et de latrine. Les archers et les sergents de la troupe de Froek mirent pied à terre dans cette cour. L'arrivée de l'escouade en pleine nuit ne passa pas inaperçue. Tous les bivouacs s'animaient. Sergents, arbalétriers et soudoyers, plus ou moins chiffonnés de sommeil, se levaient et venaient aux nouvelles. Le bruit que le sire de Froek était de retour courait déjà dans tout le château. On se réjouissait de constater que la compagnie avait échappé au péril. Mais la même question se pressait sur toutes les lèvres. Où était le seigneur Claudas? Gérian de Froek avait donné consigne à ses gens de n'en dire mot tant que le comte lui-même ne serait pas averti. Mais le secret ne pouvait être longtemps gardé. Les trois chevaliers, leurs pages et écuyers, rassemblèrent à la hâte les sacoches qui contenaient la rançon. Après les avoir accrochés à l'arçon de leur destrier, pâle froid et ronçant, ils se dirigèrent vers la cour haute. Pour la gagner, il fallait traverser un châtelet de pierre flanqué au sud par une tour d'angle et au nord par la tour réale de Neuvidine. Une fois franchi la herse et un couloir sonore, on s'engageait au cœur de la forteresse. Quoique spacieuse, la haute cour paraissait plus étroite et plus obscure que la précédente, tant elle se trouvait enclavée dans de puissantes murailles. La courtine, récemment achevée, s'appuyait sur des tours massives qui restaient en construction et ne s'élevaient guère au-dessus du chemin de ronde. Les échafauds volants y avaient été renforcés et transformés à la hâte en ours qui débordaient au-dessus du vide. C'était également le cas du donjon, qui, quoique plus avancé, ne disposait pas encore de son toit en poivrière. Cependant, si incomplète fut-elle, la fortification maîtresse se dressait déjà si pensue et si géante que par comparaison tous les autres ouvrages défensifs ressemblaient à des jouets d'enfants. son parement arrondi engloutissait presque toute la longueur de la courtine occidentale et ne laissait entre sa paroi et celle des tours d'angle qu'un espace étroit comme une ruelle. La proportion d'étoiles qu'occultait dans le firmament son énorme carrure donnait le sentiment d'être arrivé à l'ombre d'un mont. La cour s'illumina rapidement de torches et de flambeaux. Des salles des gardes, des communs et du donjon affluait une vraie foule, prête à accueillir le fils du comte. Pages, écuyers, chevaliers et officiers de l'hôtel s'y pressèrent rapidement autour des émissaires. Il n'y eut cependant guère de questions. Les mines s'allongèrent quand les vassaux de Kimark constatèrent l'absence de Claudas et l'entassement des sacoches lourdes de 40 000 pièces d'or. La crainte d'une issue tragique se peignait sur tous les visages. Claudas de Kimark, en raison de sa bravoure et de sa courtoisie, était populaire au sein de la noblesse. Au deuil qu'aurait provoqué sa disparition, venait se greffer l'inconnu dans lequel risquait de verser le pays de Kimark si le vieux comte perdait son héritier. Quelques exclamations désolées fusèrent chez les pessimistes et les émotifs. Mais la majorité des dignitaires curieux gardaient le silence. La primeur du message devait revenir au suzerain, surtout si les nouvelles se révélaient mauvaises. Dans la petite foule qui s'assemblait autour des émissaires, deux importants personnages se frayèrent rapidement un passage. Le premier, Fulcran de Mainbor, était le châtelain de Neuvidine. Issu de la petite noblesse, couturé et blanchi sous le art noir, il s'était illustré depuis 30 ans sur de nombreux champs de bataille, tant au cours de la guerre du Hériban, du siège de Mormark, que lors des accrochages presque annuels contre les Ouromans dans la vallée de la Claie. Sa bravoure, sa loyauté et son expérience avaient fini par lui attirer la faveur du comte. Lorsqu'Anguzel avait décidé de bâtir Neuvidine pour faire pièce au château d'Ouchain, il lui en avait confié la lieutenance. Quoique Neuvidine ne fût point son fief, mais demeura forteresse comtale, l'efficacité avec laquelle le sire de Mainbor avait supervisé l'érection de la place et le verrou qu'elle constituait sur la marche occidentale de Kimark avait fait du châtelain un capitaine de premier plan. Arrivé peu après le sire de Mainbor, le sénéchal Elmgo de Varesquet appartenait quant à lui à la haute noblesse. Ses fiefs se trouvaient distribués aussi bien dans le comté que dans le duché. Et il cousinait avec les grands lignages bromalois, landeviessin et kimarquois. Ferme dans l'adversité sans pour autant se montrer toujours partisan de la manière forte, Elmgo de Varesquet bénéficiait des appuis et des ressources de sa puissante parentèle. Il était excellemment renseigné sur ce qui se passait en Bromel et s'ingéniait à maintenir le contact avec la cour ducale, même au plus fort des hostilités. Le comte l'avait élevé à la sénéchaussée pour profiter de son entregent et flatter sa famille dangereusement ramifiée. Cela lui permettait aussi de garder à l'œil un grand vassal dont la double allégeance n'était point dépourvue d'ambiguïté. Le châtelain et le sénéchal étaient du reste très dissemblables. Le sire de Mainbor, trapu et balafré, le crin raide comme des soies de sanglier, avait pris du ventre avec l'âge. Bien qu'il n'eût guère de distinction, son énergie et sa grosse voix lui conféraient une autorité aussi fruste qu'impérieuse. À peine habillé, ce fut tout juste s'il ne saisit point le mors du chevalier de Froek. Toutefois, malgré cette rudesse martiale, il se garda bien de s'enquérir à propos du fils du comte. Un regard lui avait suffi pour comprendre l'échec de l'entreprise. Le seigneur de Varesquet, quant à lui, se fit ouvrir la voie par ses sergents et ses écuyers. Son maintien respirait un orgueil bien élevé, et rien dans sa mise irréprochable et sa chevelure soignée n'aurait pu laisser croire qu'il venait de tomber du lit. Avec un parfait naturel, il ignora les chevaliers aux pies et aux épines qui, bien qu'ils se fussent illustrés à Lindinas, n'étaient point de son monde.
« Voici un retour fort tardif, sire Gérian, » lança-t-il au chevalier de Froek. à moins qu'il ne soit prématuré, selon que l'on jugera vos accomplissements.
Monseigneur Anguzel en décidera, répondit le banneret en mettant pied à terre.
Est-il déjà couché? Peut-il nous accorder audience?
Je l'ai fait avertir de votre arrivée. Au vu de l'importance de cette affaire, je doute qu'il vous fasse faire antichambre.
D'un geste bref, le sénéchal désigna les sacs de monnaie.
Je ne saurais dire si monseigneur vous en saura gré, mais je vois que vous avez été économe, sire Gérien.
Permettez que je vous débarrasse de ces fonds pour les serrer dans le trésor du comte.
Par ma foi, j'aurais préféré ne pas les rapporter, grommela le chevalier de Froek.
Sachez qu'il y manque 2 marks. Ce fut le prix pour le rachat d'un compagnon de captivité de monseigneur Claudas.
Au moins, vous nous ramenez un lot de consolation,
salua le grand officier sur un ton pince sans rire. Le sénéchal ne se donna pas même la peine de donner un ordre. Ses écuyers se portèrent d'eux-mêmes vers les montures des chevaliers et de leurs suivants pour récupérer les sacoches remplies d'or. Le petit Kell s'empressa de les aider à décharger son ronçin. Gérien de Froek, qui considérait cette restitution non sans dépit, finit par marmonner
« En fin de journée, nous avons tué quelques ouromans qui rôdaient aux limites du finage. »
« Le voyage n'aura donc pas été dépourvu d'agrément, » badina le seigneur de Varesquet.
De façon plus pragmatique, le sire de Mainbord demanda où l'escarmouche avait eu lieu, mais les 3 chevaliers n'eurent pas le loisir de le renseigner. Un écuyer de l'hôtel du comte arrivait en toute hâte pour convoquer séance tenante les émissaires. Escorté par le sénéchal et le châtelain, les 3 compagnons partirent pour le donjon avant même d'avoir pu boire ou se désarmer. Une passerelle leur permit de franchir le fossé qui séparait la tour maîtresse de la cour, puis l'escalier de bois qui s'élevait le long de la façade leur donna accès à l'entrée, perchée au 1er étage.
Restés dans la cour, le petit Kell les regarda franchir la lourde porte. Son attention s'envola ensuite jusqu'à la fenêtre géminée, ouverte à une grande hauteur dans le donjon où dansait la lumière chaude d'un feu et de quelques chandelles. C'était assez vexant de se trouver ainsi délaissé sur le pavé, alors qu'il allait se dire des choses passionnantes là-haut. Le page brûlait de voir la tête que ferait le vieux Kimark quand on lui annoncerait qu'on avait abandonné son fils.
« Arrête donc de bâiller aux corneilles, » pensa Nem. « Je ne vais pas m'occuper des chevaux tout seul. »
Le jouvenceau s'ébroua et se mit aussitôt à l'ouvrage.
« Nous ne sommes pas couchés, » ajouta l'écuyer sur un ton adouci. « Mais crois-moi, mon garçon, notre place est meilleure que la leur. Je n'aimerais pas être celui qui essuiera la colère d'Anguzel. »
Le petit valet d'armes hocha la tête avec la plus naturelle des hypocrisies. Il avait développé une telle indifférence aux reproches et aux semonces que voir un seigneur hors de ses gonds l'amusait davantage que cela ne l'inquiétait. Cependant, trop fourbu pour vétiller, il fit mine de partager le sentiment de Nem. Cela ne l'empêcha pas de soupirer bruyamment. Soigner tous les chevaux après chaque étape représentait en soi un gros travail. Le fer perclus de fatigue, alors que les bêtes étaient en nage, allait nécessiter plus de temps et d'énergie que d'ordinaire. Neuvidine étant défendue par des effectifs nombreux, les écuries du château étaient d'ores et déjà combles. Il fallait donc réquisitionner un coin de cour, déharnacher les montures, les abreuver, les nourrir et les bouchonner d'importance pour leur éviter un refroidissement. Lorsque le vieil écuyer leur eut réservé une place, ils entreprirent de desceller les coursiers. Profitant que Nem était occupé, le page fit glisser dans son aumônière 2 ducats d'or qui s'étaient opportunément égarés dans sa manche. Puis, l'air absorbé, il libéra son petit ronçin de sa selle. Malgré l'heure tardive, la cour était encore pleine de monde. Mais les gens, abasourdis ou résignés par ce qu'ils avaient deviné, étaient en train de tourner les talons pour retourner se coucher. Par acquis de conscience, le garçon s'assura tout de même du coin de l'œil que personne n'avait aperçu son manège. Il dut prendre sur lui pour ne rien laisser paraître de son déplaisir, d'autant que la fâcheuse faillit échapper à sa vigilance. Quelqu'un le fixait bel et bien. Traînant dans les jambes des gens de guerre et des valets qui se dispersaient, une silhouette toute menue demeurait immobile au milieu de la cour, à une quinzaine de pas peut-être. C'était une très petite fille, l'air mal réveillé, avec sa robe froissée et son bonnet un peu de travers. Un petit bout d'âge tendre qui suçait encore son pouce et serrait contre son flanc une poupée informe. Mais la mouflette contemplait un peu niaisement le gentil page du chevalier de Vaumacel. Qu'elle était à peu près sûre qu'elle admirait son pourpoint de cindal et ses choses de quincil. Mais mieux valait dissiper tous les doutes. Avec une nonchalance étudiée, il fit signe à la petiote d'approcher. La fillette ne bougea pas.
Hé, mignonne, viens donc. J'ai un service à te demander.
Cet appel n'eut pas plus de succès. Alors le page haussa une épaule et se détourna, en secouant la tête avec un rien de moquerie. Le chenapan s'y connaissait pour prendre des grives. Il était en train de déboucler les sangles du cheval de somme lorsqu'il aperçut la silhouette enfantine à moins de 5 pas. Mais il fit mine de l'ignorer et continua à débarrasser le ronsin de ses lances et de ses ballots. Lorsque le cheval fut débatté, il joua les étonnés.
« Tiens, tu es encore là, toi ?»
La petite se dandina comme si elle était sur le point de s'enfuir.
« Tant que tu es là, tu peux me faire plaisir ?»
lança le page en préparant un bouchon de paille.
« Apporte-moi à boire, je meurs de soif. En échange, je te donnerai quelque chose. »
Retirant le pouce de sa bouche, l'enfant demanda avec une intonation chantante de curiosité.
« Tu me donneras quoi ?»«
Apporte-moi à boire et tu verras bien. Attention, je ne veux pas de l'eau. Je peux la tirer au puits. Apporte-moi plutôt de l'hydromel ou du vin. »
« J'ai pas le droit de prendre du vin.
C'est pour moi, pas pour toi, débrouille-toi.
Mais si tu me trouves un rafraîchissement, je t'apprendrai un secret. »
Et prenant un air mystérieux, il ajouta dans un murmure,
« Je te dirai ce qui est arrivé au fils du comte. Tu seras la première à le savoir. »
La proposition n'eut pas l'air d'emballer la petite. Alors, comme pris d'une inspiration, qu'elle tira une jolie boîte de bois de l'une des sacoches qu'il venait de déposer. Il agita légèrement le récipient, qui tintinabula de façon sourde. Puis, avec une grandiloquence de battleur, il ouvrit le coffret sous le nez de l'enfant. Dans l'éclairage chiche des torches, l'intérieur brillota. C'était un petit trésor de mercerie. Une boîte à boutons où puisait le page quand il lui fallait recoudre les vêtements déchirés du chevalier et de son écuyer. S'y mélangeaient boutons à queue et à bourre, en archal, en cuivre et en bronze, et même quelques pastilles d'argent, avec divers ferrets d'aiguillettes. Les yeux de la fillette s'agrandirent. Qu'elle claqua le couvercle quand elle fit mine de tendre la main. « Je t'en donnerai 2. »
Si tu me rapportes quelque chose de bon à boire. »
Le sourire de l'enfant révéla qu'il lui manquait une dent de lait, et elle fila pleine d'enthousiasme vers les communs. Qu'elle poursuivit son travail avec efficacité. Il espérait en avoir terminé assez tôt pour grappiller quelques heures de sommeil. Il n'avait pas l'air mécontent de lui. 2 boutons, ce n'était pas cher payé pour couvrir un gain de 2 ducats. Surtout si la gamine commettait un larcin qui garantirait plus solidement son silence. À la limite, c'était même dommage de s'arrêter en si bon chemin avec une drôlette si crédule. Ceci dit, la petite tardait quand même à revenir. L'avait-elle oubliée? S'était-elle recouchée? En l'attendant, le page alla puiser de l'eau pour abreuver les chevaux. Situé à peu près au milieu de la cour, le puits de Neuvidine était singulier et même assez dangereux.
Le château, encore en chantier, avait été bâti avec des pierres extraites de son sous-sol. Certaines venaient de ses fossés, d'autres d'une carrière qui, en attaquant un versant de la colline, avait creusé une falaise peu élevée sous la courtine méridionale. Mais une bonne partie du matériau de construction avait été taillée dans les profondeurs même de la roche, sous les fondations de la forteresse. Il en résultait que le puits de la haute cour, beaucoup plus large que la norme, servait également à remonter les pierres d'une carrière souterraine dont les galeries communiquaient avec son conduit. Si une partie du trou était sommairement bordée par une margelle de pierres sèches, l'autre moitié s'ouvrait au ras du sol pour favoriser le hissage des blocs. Une roue de carrier encombrait en partie ses abords. En pleine nuit, l'orifice s'ouvrait aussi malveillant qu'un gouffre et noir comme le tombeau. En y lançant son seau à l'aveuglette, il fallait prendre garde à ne pas glisser. Le jouvenceau dut faire plusieurs allers-retours pour abreuver les 5 chevaux. Milouin et Agnel, les pages du chevalier Hopi, étaient également de corvée d'eau. Kell prit un malin plaisir à se bousculer avec eux au bord du vide. Comme il était plus âgé et plus fort qu'eux, il leur colla de belles frayeurs. Il fallut un grognement de Nem pour que prît fin ce jeu dangereux. Kell fut néanmoins récompensé de son travail et de ses facéties. Alors qu'il rapportait son dernier chargement d'eau, il vit la petite qui l'attendait près des ronces, portant contre son buste sa poupée et une cruche.
« Je savais bien que tu allais revenir, » fanfaronna le garçon. « Je suis irrésistible. »
Le page s'empara du pichet avec un rien de brusquerie et faillit en renverser le contenu. Il huma la boisson. Ce n'était pas du vin, mais le col vernissé du pot exhalait un parfum agréablement fruité. Kell but à grosses gorgées le cidre doux, divinement frais. Il faillit l'avaler jusqu'à la dernière goutte, mais se retint et en laissa un petit reliquat. De loin, il fit signe aux 2 autres pages en élevant bien haut sa cruche pour les narguer. Puis, se détournant sitôt qu'il les eut appâtés, il demanda à la fillette « Tiens, veux ?» La petite ayant opiné du chef, il lui restitua la cruche sans façon. Pour boire, elle dut saisir le récipient à 2 mains. Sa poupée tomba à ses pieds. Vif comme l'aspic, Kell s'empara du jouet et l'inspecta sous toutes les coutures. C'était un pantin de toile, rembourré de feutre ou de chiffon et cousu à gros points. Plus très propre, la poupée commençait à perdre sa forme et s'effilochait par endroits.
« Rends-la-moi !»
s'écria l'enfant dès qu'elle eut fini de boire. Le page fit mine de la lui laisser, mais escamota le jouet dès que la petite tendit la main.
« Rends-moi Joliette !»«
Elle s'appelle Joliette » releva-t-il sur un ton narquois.
« Rends-la-moi !»
Il s'amusa un instant à faire tourner le bout de chou en bourrique, mais lui céda assez vite sa poupée avant que Nem ne s'avisât d'interrompre ce petit jeu. À peine eut-elle récupéré son jouet, la fillette le serra contre son cœur, la mine à la fois soulagée et mécontente. Devinant qu'elle allait filer, Kell s'écria « Attends, tu oublies ton cadeau !» Et la boîte à boutons surgit entre ses mains. L'objet capta l'attention de l'enfant qui en oublia ses alarmes. Toutefois, dans un premier temps, le garçon n'ouvrit pas le coffret. « Tu m'as présenté Joliette ?» dit-il. « Mais toi, j'ignore qui tu es. Comment t'appelles-tu »«
Je m'appelle Guigonne. »«
Ah, alors bonjour, ou plutôt bonsoir Guigonne. Moi je m'appelle Agnel. Maintenant qu'on se connaît, tu peux choisir ta récompense. » Et Kell ouvrit la boîte à boutons. Pendant qu'elle plongeait une menotte à vide au milieu des breloques, le page lui proposa d'une voix aimable « Prends-en des beaux. Tu pourras les coudre sur la tête de Joliette pour lui faire des yeux. »«
Je vais pas piquer Joliette, » protesta l'enfant d'un air scandalisé. « Je veux pas lui faire mal. » »«
Je te donnais l'idée pour la rendre plus belle, mais je suppose qu'elle n'a pas besoin de boutons pour y voir clair. »
« Ben non.
lâcha la fillette sur le ton de l'évidence. Kell la laissa fourrager dans la boîte quelques instants, puis il suggéra à mi-voix.
« Il faudra quand même lui en donner au moins un, de bouton, à Juliette, pour qu'elle ne rapporte pas. »«
C'est pas une rapporteuse. »«
Tu es sûr ?»« Elle était avec toi quand tu as volé du cidre. »«
Elle t'a vu ?»« Je l'ai pas volé, le cidre. »«
Tu es trop petite pour avoir ton tonneau. »«
Je l'ai pas volé. » « Mon papa, c'est le queue du seigneur Fulcran. Je m'ai servi aux cuisines. »
Guigonne venait de dénicher un petit jeton de cuivre dont l'attache était certes cassée, mais dont le bouton avait la forme stylisée d'une rose. Elle le mit de côté. «
Dans ce cas, tu n'as pas à t'en faire ?» dit Kell d'un ton léger.
« Assurément, ce n'est pas moi qui te dénoncerai.
Et toi, tu garderas bien mon secret ?»
La petite se désintéressa un instant des boutons pour jeter un coup d'œil perplexe aux pages.
« De quoi tu causes ?»
demanda-t-elle.
« Allons, tu sais très bien de quoi je parle. Tu me guettais tout à l'heure. »«
Je te guettais pas. »«
Alors, tu n'as rien vu ?»
La lippe boudeuse, Guigonne secoua négativement la tête.
« Et Joliette, elle n'a rien vu ?»
La petite fit de rechef non de la tête. Mais le page avait saisi un bref instant d'hésitation. Toutefois, plutôt que d'approfondir la question, il fit un coq à l'âne.
« Au fait, je t'avais dit que je te raconterais ce qui est arrivé au fils du comte. Je vais tenir parole, mais c'est un grand secret. Il ne faudra surtout pas le répéter. »
L'enfant se dandina, rattrapé par la curiosité, mais pas vraiment à l'aise.
En fait, il a subi un sort horrible, le seigneur Claudas, chuchota Kell en faisant une grimace effrayante. Les Ouromans l'ont capturé dans la bataille. Le roi des Ouromans est un ogre féroce. Il a coupé le cou du fils du comte et il l'a vidé comme un poulet. Ensuite, il l'a donné à dévorer à ses loups-garous. Mais il a gardé son cœur. Il l'a fait rôtir. Et puis il l'a mangé avec une sauce au réfort.
L'expression cruelle prise par le coquin épouvanta autant la petite que ses fariboles. Oubliant sa cruche et son cadeau, elle voulut se dérober, mais Kell la retint fermement par le bras.
« Rappelle-toi, c'est un secret !»
susurra-t-il avec une joie mauvaise.
« Pas un mot de tout ce qu'on s'est dit. De toute façon, on te prendrait pour une menteuse. Et puis si jamais le roi des Ouromans apprend que tu l'as dénoncé, il attaquera le château. Il te fera chercher dans les cuisines, il mettra ton papa à la broche, il jettera Joliette au feu et il mangera ton cœur avec une sauce au réfort. »
De grosses larmes de peur montèrent aux yeux de l'enfant, qui se débattit pour se soustraire à la poigne du page. « Bon prince, le chenapan la relâcha et la fillette prit une fuite éperdue vers les communs. Tout en riant, Kell ramassa le pot qu'elle avait abandonné et le brandit.
« Hé !» moqua-t-il. « Ton cruchon, petite cruche !»
Mais dans le même mouvement, une découverte refroidit sa gaieté. En levant la tête, il se rendit compte qu'il était bel et bien épié. Très haut sur la façade obscure du donjon, la lumière qui découpait l'embrasure de la fenêtre était en partie occultée par une ombre. Elle se découpait à contre-jour, mais quoique cuirassée, cette silhouette possédait une grâce qui ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Le rire mourut sur les lèvres de Kell. Malgré l'obscurité et la distance, il lui avait bien semblé croiser un regard d'ambre. Reprenant un air innocent, il bâilla, puis retourna bouchonner les chevaux. Par l'unique fenêtre de l'étage noble, le chevalier Opi contemplait la nuit. À cette hauteur, il dominait les tours tronquées de la muraille. La vue embrassait l'immensité obscure de la vallée de la Claie, les versants ténébreux des hautes terres d'Agurande, et, dans les confins, un ruban noir que l'on aurait pu prendre pour les contreforts du chevêchin, encore qu'il ne fût probablement qu'une barre nuageuse. Tourné vers l'est, l'ouverture ne permettait pas de découvrir la marche du comté, ni par-delà les plaines de Brequesan, où rougeoyaient des incendies. En revanche, l'aventureux distinguait fort bien quelques lumières qui piquetaient le panorama nocturne. L'une d'elles, qui clignotait assez haut sur les monts, devait appartenir au château d'Ouchin. Plus loin et beaucoup plus bas dans la plaine, un chapelet de lueurs orangées dessinait les remparts de Mortemarc. Ça et là, dans les campagnes noires, papillotaient des escarbilles, signalant qui une place forte, qui un sanctuaire du resplendissant. L'aventureux n'avait prêté qu'une attention distraite à ce qui s'était passé dans la cour sous ses pieds. Il avait entrevu la bousculade des pages au bord du puits et trouvé ses petits valets peu dégourdis. Puisqu'ils étaient plus jeunes que le servant du chevalier aux épines, que ne s'était-il ligué contre lui? Mais l'elfe prêtait l'oreille à ce qui se disait dans la salle, tout en cherchant des yeux, dans ce pays endormi, le fantôme d'implantation plus ancienne que le vieux royaume. À l'intérieur, le chevalier de Froek achevait de rapporter à son suzerain l'échec de leur mission. Sa voix bien posée résonnait dans le vaste volume de l'étage noble. Celui-ci n'était composé que d'une seule salle, spacieuse et circulaire comme la nef d'un sanctuaire. L'éclairage un peu chiche de quelques flambeaux faisait même paraître ces appartements plus vastes qu'ils ne l'étaient réellement. Les flammes créaient des jeux d'ombre et de lumière sur le plissé des étoffes, les pentures des coffres, ou le bois ciré d'un grand lit et de quelques sièges. Toutefois, le luxe de ces quartiers restait assez sommaire. La pièce, en fait, avait été meublée par une partie du mobilier que le comte de Kimark avait utilisé au camp de Lindinas. Les tapisseries qui cloisonnaient l'espace en alcôve conféraient certes un cachet princier au logis, mais donnaient aussi l'impression déroutante de se retrouver dans un pavillon juché sur un rempart. Les murs, fraîchement chaulés, restaient vierges de toute peinture. S'élevant largement au-dessus des tringles qui supportaient les tentures, une voûte en croisée d'ogives se perdait dans l'obscurité. Cependant, ces arches élégantes relevaient moins du faste palatial que de l'architecture militaire, car la hauteur de plafond, en allégeant la structure du bâti, avait contribué à la taille formidable du donjon. Dans cette salle, les paroles résonnaient presque aussi caverneuses qu'au fond d'un temple. Gérian de Froek, après avoir évoqué la rupture des pourparlers, rapportait la rencontre avec l'Enval de Bromel et ce que le prince ducal leur avait appris. Vêtu à la hâte d'une houppelande, le comte l'écoutait, assis au bord de son grand lit défait. Décoiffé, un peu tassé, les bajoues hérissées d'un chaume blanchâtre, Anguzel de Kimark accusait son âge. Il se tenait quoi, avec une expression presque apathique, la lèvre un peu molle et les yeux à demi-clos. Mais il respirait fort, et son apparente atonie ne trompait pas les officiers de sa cour. Le sénéchal de Varesquet et le châtelain de Mainbord, tout en prêtant l'oreille au rapport du chevalier Banneret, restaient à distance respectueuse de leur suzerain. Quoique rapidement couvert d'une robe et d'une dalmatique qui ne révélaient point sa charge ecclésiastique, l'archichapelain Rubestre, patriarche de la tour réale de Mortemarc et primat de Kimark, était le seul dignitaire à se tenir au voisinage immédiat du comte. Il passait davantage pour le conseiller que pour le directeur de conscience du grand seigneur. Prélat du culte du resplendissant, le hiérarque était connu pour soutenir que la guerre était œuvre pie si on l'entreprenait pour la justice et la défense de la foi. Dans la cour de Kimark, c'était un partisan de la manière forte, dont les avis se heurtaient souvent aux propositions plus diplomates du sénéchal. Au sein de la noblesse, il se disait qu'Anguzel appréciait le zèle de son archichapelain, parce qu'il fournissait des motifs religieux à ses initiatives les plus brutales. Néanmoins, la plupart du temps, le vieux renard jouait sur la rivalité entre le seigneur de Varesquet et le patriarche Rubestre, afin de mener une politique tortueuse qui lui permettait de souffler le chaud et le froid. Le chevalier de Froeck faisait face à ce conseil privé pour rendre compte de sa mission. Edan de Vaumacel se tenait légèrement en retrait, mais soutenait son compagnon d'armes de sa présence. Le chevalier Hopi, que le sérieux de ce conciliabule nocturne ennuyait un peu, avait le plus naturellement du monde gagné la fenêtre creusée dans l'épaisseur du mur. Un genou sur un coussiège, il s'était accoudé au rebord avec une désinvolture si gracieuse qu'il passait sans peine pour plus déférent que tous les hauts hommes respectueux des usages. Quand Gérian de Froeck se tut, après avoir brièvement mentionné les rôdeurs ennemis tués en fin d'après-midi, un grand silence s'abattit sur l'étage noble. Par la fenêtre ouverte, on put entendre les rumeurs de quelques bavardages échangés par les valets d'armes dans la cour. Personne n'osait prendre la parole avant le comte. Anguzel soufflait pesamment, ses mains tavelées mais fortes, crispées sur ses genoux. Il donnait presque l'impression de somnoler, mais la façon dont battait sa tempe et se crispait sa mâchoire trahissait une colère froide.
« Un chien !»
finit-il par grogner. Le mot, craché avec hargne, cingla ses vassaux et les chevaliers sans qu'ils parvinssent à démêler ce qu'il voulait dire.
« Un chien muselé et étroitement enchaîné !» « Voilà ce que je suis devenu !»
reprit-il sur un ton vibrant de courroux.
« L'impéritie de mes gens et de mes alliés m'a réduit à l'impuissance !»«
Seigneur, c'est péché contre la foi que de désespérer !» remontra l'archichapelain.
« Désespérer !» rétorqua le comte. « Quelle sottise ! Je ne désespère pas ! Ce n'est point dans mes habitudes !» Je vois juste les choses telles qu'elles sont. Tant que Ferbassac tient Claudas, j'ai les mains liées. Il se paie même le luxe de m'insulter, le fils à putain. Il cherche à transformer la rançon en tribu. Ah, maudit chevalier! Que n'avez-vous mieux défendu votre capitaine à Lindinas? S'il n'avait été pris par Ganelon, je ne me retrouverais pas à ramper devant le barbare.
Les sires de Froeck et de Vaumacel essuyèrent stoïquement le reproche. Le chevalier Hopi, quant à lui, ne paraissait guère concerné et avait le nez levé vers les étoiles.
« Pour compliquée qu'elle soit, votre position reste solide, monseigneur, » intervint le sénéchal. « Nos forces sont intactes. Pour l'instant, hormis quelques pillards isolés, les Ouromans ne nous attaquent point. » Si l'on prête crédit à la parole du seigneur Lanval, les clans Isenvirta et Slagsbroder ont été décimés. Quoi qu'il soit victorieux, le roi Hartclyde commande une armée diminuée. Il n'a sans doute plus les effectifs suffisants pour affronter une coalition formée par Bromel et Kimark.
Le comte eut un geste excédé.
« C'est l'évidence » gronda-t-il. Voilà pourquoi il fait monter les enchères. Il n'a nullement l'intention de libérer mon fils. Il en use comme otage pour retenir mes coups.
Vous pouvez retourner cette situation à votre avantage,
suggéra Helmgo de Varesquet.
Vos réserves intactes font de vous l'arbitre de la guerre.
Voici un argument bien tortueux, objecta vivement le patriarche. Envisageriez-vous même à demi-mot de nous compromettre avec les païens?
Tant qu'il tiendra mon fils en son pouvoir, Ferbassac me tordra le bras pour nous rallier, gronda Anguzel. Mais c'est hors de question. Cela reviendrait à lui offrir la corde pour nous pendre.
C'est plus que probable, en effet, opina le sénéchal. Mais nous pouvons atermoyer en reprenant les négociations et en lui faisant miroiter une alliance de circonstances. Pendant ce temps,
certains de vos vassaux pourraient rejoindre les forces ducales en leur nom propre et y combattre pour le plaisir. Cela nous permettrait de maintenir le statu quo avec le barbare tout en renforçant l'armée bromaloise. Le comte prit le temps de peser cette option. La proposition eut l'air d'amuser le chevalier Opi, alors qu'une expression désapprobatrice se peignait sur les traits des sires de Froek et de Vaumacel. Le châtelain de Neuvidine l'accueillit aussi assez fraîchement.
« Monseigneur, intervint-il, cette ruse ne sera qu'un pis-aller. Nous risquons d'y compromettre notre honneur, et nous n'y gagnerons que la défiance des deux camps. »
Le suzerain se fendit d'une grimace. « Les deux parties se défient déjà de nous, Fulcran.
Mais notre honneur est sans tache. Ce sont les ducaux, et non nous, qui ont violé les règles du pas d'armes. Ce sont les ducaux, et non nous, qui ont été vaincus par les Ouromans. C'est la faute des ducaux, non la nôtre, si Monseigneur Claudas est captif. Au sein de la chevalerie, votre réputation est intacte, Monseigneur. Ce serait grande misère de la flétrir dans un double jeu. Ma réputation dans la chevalerie n'a d'utilité que si je peux déployer mes troupes sur un champ de guerre. Or, si je tarde trop à agir, mon honneur sera malgré tout terni. En ce sens, l'expédient proposé par Varesquet est un moindre mal.
Il n'est pas dépourvu de péril, objecta le châtelain. Combien de temps les Artclyde maintiendront-ils les clans qui les suivent sous leur suggestion? Certains pourraient nous attaquer de leur propre initiative. Et n'est-il pas dangereux de sous-estimer la ruse d'un chef aussi perfide que Ferbassac? Dès qu'il réalisera que certains des nôtres combattent sous les bannières ducales, il pourra se retourner contre nous et attaquer des terres que nous aurons nous-mêmes dégarnies.
Cela soulagerait au moins le duché de ses assauts, fit valoir l'archichapelain. Et même avec une garnison réduite de moitié, sire de Mainbord, le resplendissant vous prêtera la force de défendre Neuvidine.
Défendre Neuvidine, sans conteste, rétorqua le capitaine. Mais rompre un siège. Empêcher les bandes ennemies de ravager les campagnes d'ici à Mormarck.
Nous ne serions bons qu'avoir brûlé nos champs et nos villages du haut de ces murs.
De cela, il est hors de question, s'emporta le comte. Quittant son lit, il traversa la pièce, ses vassaux s'écartant avec respect devant lui, et il vint se camper devant le grand âtre où ne brûlait qu'un feu modeste pour adoucir la fraîcheur de la nuit. Il entisonna furieusement les braises.
Rien ne doit être détruit, gronda-t-il. Ni grenier, ni moulin, ni four, ni récolte. Il faut veiller à toute force à la sûreté du petit peuple, afin qu'il me verse sans faute la taille, le champard et les banalités. Je n'ai plus un sou qui vaille. »
D'un moulinet assez dangereux de son tisonnier, il désigna la salle.
« Cette forteresse m'a coûté une fortune. Or voici 10 ans que je n'arrive pas à compenser la perte du sens d'Ouchin. Là-dessus, je me suis lourdement endetté auprès des usuriers de Mormarck pour organiser le tournoi. Et j'ai dû à nouveau leur emprunter à un taux déraisonnable de quoi constituer la rançon de Claudas. Si les Ouromans dévastent nos campagnes, je serai sur la paille. Ferbassac n'aura même pas à me combattre pour me vaincre. Je n'aurai plus les moyens d'entretenir une armée.
Pour l'heure, monseigneur, vous disposez des 398 marques d'or que nous avons rapportées,
rappela le chevalier de Froek.
300 marques et quelques, s'emporta le suzerain. Tu n'as même pas réussi à me restituer toute la somme. Et tout cela pourquoi? Pour me ramener un inconnu qui n'est pas de sang noble. Que personne ne me rachètera. Ah, Gérian, tu ne t'es pas montré à la hauteur.
De rage, le comte fendit une bûche dans une envolée d'escarbilles.
De toute façon, reprit-il plus sourdement, ces 398 marques ne m'appartiennent plus. Ils sont destinés au rachat de mon fils. Et où trouverai-je les 400 ducats qui me manquent à présent? Les as-tu, Gérian? De toute façon, pour peu que ce païen d'Ouroman me fasse encore lanterner, mes troupes mangeront cet or avant le mi-temps de l'été. Afin que je sois en mesure de renflouer mes caisses, il faudrait que nous partions au plus tôt en guerre. Il faudrait massacrer des bandes barbares. En leur reprenant le butin fait sur le duché, je pourrais me remettre à flot. Mais tant que nous restons sur la défensive, ma trésorerie fond comme neige au soleil. Je serai bientôt plus pauvre qu'un cerf. Il ne me restera qu'un moyen pour demander encore plus d'argent aux bourgeois de Mortemart, leur accorder les lettres de franchise qu'ils me réclament depuis des lustres. Je ne serai plus maître chez moi.
Anguzel jeta un regard désabusé à ses vassaux et chevaliers. Il l'écoutait avec politesse, mais il était visible qu'il n'accordait qu'un intérêt relatif à ses soucis d'argent. « Si les bourgeois de Mortemart ne se montrent plus assez arrangeants, il est toujours possible de solliciter d'autres prêteurs, » argua le sénéchal. « Tenez, le jeune ambassadeur de la République, ce Patrice Razicari, pourrait faire un intermédiaire prometteur. C'est grâce à son intervention que nous avons rouvert des pourparlers avec le duc. Or, il nous a laissé entendre que le comté aurait beaucoup à gagner en soutenant les intérêts de Tchoudalia en Ouromagne. » Le comte haussa une épaule lasse.
« Quels intérêts en Ouromagne ? » grommela-t-il. « Toutes ces chimères ont été balayées à Aberbechan. D'ailleurs, qui sait si le patrice Razicari n'y est pas resté, lui aussi ?»«
Cela n'empêche nullement que nous pourrions emprunter auprès des grandes maisons de Tchoudalia ou des échevins de la Marche Franche. » L'entêtement du sénéchal ne tira qu'un ricanement à son suzerain.
« Pour l'instant, Tchoudalia marche main dans la main avec Ganelon. Nous n'obtiendrions ce financement qu'en acceptant de soutenir la nouvelle duchesse. Ma tête a coupé qu'on me demanderait même de renouveler mon hommage à Bromel. Hors de question. Je préfère accorder une charte aux bourgeois de Mortemart. Quant à la Marche Franche, c'est un petit pays coincé entre la République et le duché. Tu n'es pas naïf, Varesquet. Tu sais très bien que les preux bourgeois ne feront rien qui risquerait de déplaire à leurs puissants voisins. »
Pointant le tisonnier sur son sénéchal, le comte gronda.
« Je ne suis pas dupe, Elmgo. Tu te dis qu'en acceptant de prêter à nouveau hommage, je réglerai toutes nos affaires, à commencer par les tiennes. Mais quelle sottise ce serait, même en faisant fi de ma fierté et de mes prétentions légitimes. Depuis quand ploie-t-on le genou devant un vaincu ?»
L'œil mauvais, le menton dur, les mains frissonnantes de colère, il jeta un regard noir à ses conseillers.
« Et me voici, moi, en train de parler d'argent comme un marchand en banqueroute. Alors qu'en vérité, de quoi est-il question ? Quelle est la seule chose qui importe ?»
Exaspéré par le silence circonspect de ses dignitaires, il vociféra
« Mon fils ! Mon fils !»
Brandissant avec rage son pique-feu, il se mit à frapper tout ce qui se trouvait à sa portée. Ce vieillard échevelé, la houppelande bâillant sur un abdomen alourdi et des jambes un peu grêles, offrait un tableau pathétique qui renforçait pourtant le caractère effrayant de sa fureur. Car 40 ans de combats et de guerres animaient toujours le bras d'Anguzel de Kimark. Et il maniait le tisonnier avec la force et la précision qu'il aurait donné à des coups d'épée. Il fracassa une salière d'argent. Il rompit un faux d'esteuil. Il fendit le plateau d'une table. Il déchira une tapisserie. Il pulvérisa un échiquier précieux. Il ébrécha le manteau de la cheminée. Et à chaque coup, il hurlait à plein poumon « Mon fils !» comme s'il se fût agi d'un cri de ralliement sur un champ de bataille. Vassaux et chevaliers s'écartèrent prudemment de cette furie destructrice, tandis qu'alarmés par le vacarme, sergents et écuyers faisaient irruption dans la salle et s'arrêtaient, interdits, au spectacle de ce déchaînement. Seul le chevalier Opie ne recula pas devant ce transport de colère. Au contraire, il considérait le comte avec une expression étrange, où se mêlaient la curiosité et une forme d'estime. Anguzel en prit ombrage. Il leva le bras contre l'aventureux, mais ayant croisé son regard d'ambre, retint son coup au dernier moment. Avec un geste de dépit, il jeta au sol le tisonnier tordu. L'elfe n'avait pas bougé.
« Je connais ce sentiment, » dit-il d'un ton songeur.
« Vraiment ?» grommela le comte. « Alors que n'avez-vous mieux négocié la liberté de mon fils ? Dans cette compagnie, vous êtes le seul à avoir rencontré Ferbassac. »
« Je n'ai aucune influence sur ces bandes, » répondit doucement le chevalier au pis. Le roitelet au roman ayant fait faux bond, comment le raisonner ?
Un silence pesant retomba sur l'assemblée. Prenant conscience que son éclat avait attiré du monde, le suzerain referma sa houppelande et tenta de se recoiffer avec les doigts. Le courroux enflammait toujours son teint, et il soufflait plus fort que jamais, mais il avait à peu près retrouvé la maîtrise de lui-même.
« Et quelle influence exercez-vous sur moi, messire des cinq vallées ? » gronda-t-il. « Vous êtes un étranger. Rien ne vous lie à ma noblesse. Comment ai-je pu vous accorder si vite ma confiance ? Usez-vous des mêmes subterfuges avec moi qu'avec le barbare ?»«
Mes tours sont des plus modestes. De l'assurance et un peu d'urbanité paraît de quelques beaux gestes. Je n'ai rien d'un magicien.
Et pourtant, Ferbassac vous a accueilli à sa table, ou à l'auge qui lui en tient lieu, avant de vous renvoyer vers moi porteur de ses exigences. Cette clémence ne lui ressemble guère.
Peut-être ne s'agit-il point de clémence. L'homme est cruel, mais malin.
En matière de malice, vous semblez vous y connaître, messire l'aventureux. Que dois-je penser des accusations de ce malheureux que vous avez racheté sur ma cassette ?
Que je déchoirais à relever l'offense.
En vérité, déchoiriez-vous aussi en me donnant vos raisons ?
Je ne vous appartiens point, sourit le chevalier au pis. Je parle ou je me tais, selon mon caprice.
« Je réponds de Sir Hamelin, » intervint le chevalier de Vaumacel. Son soutien à Lindinas a été déterminant, et ce serait lui faire injure que de le soupçonner. Du reste, rien dans son comportement au cours des deux derniers jours n'a témoigné de la moindre déloyauté. Il lui eût été pourtant facile de nous livrer aux ourements du Tan Gruffud, le sire de Froek et moi-même.
« C'est la vérité, » confirma le Banneret.
Sir Hamelin nous a même mis en garde contre des guerriers embusqués. En outre, il était le premier à vouloir en découdre. »
Le comte secoua sa tête blanche avec scepticisme.
« Je ne comprends pas, » répliqua-t-il. « Vaumacel, vous vous êtes également porté garant de l'homme qui l'accuse. Comment pouvez-vous soutenir deux parties opposées ? »
Monseigneur, en tant que haut justicier, vous devez avoir plus que moi l'expérience de gens estimables en désaccord ou en conflit. C'est ainsi que j'interprète la situation entre ces deux compagnons de valeur. J'incline à croire que le frère Vinmer, éprouvé par sa captivité, aura mal interprété l'ambassade de Sir Hamelin auprès du roi barbare.
Où est-il d'ailleurs, ce frère Vinmer dont j'ai payé si cher la liberté ? Pourquoi n'est-il point avec vous ? À me donner des nouvelles de mon fils.
Il est sorti en piètre état de Vikingsburg, répondit Gérian de Froek. Et la course que nous venons de faire a été rude pour tout le monde, y compris des hommes vigoureux. Nous l'avons laissé se reposer avec les sergents dans le camp de la basse-cour. Il sera sans doute plus dispo demain pour répondre à vos questions.
Quelle courtoisie, Gérian, persifla le suzerain. Te voici plus prévenant avec un petit sergent de l'ordre qu'avec le comte de Kimark.
J'agirai selon votre bon vouloir. Dois-je le mander immédiatement ?
Anguzel ne répondit point. Il retourna s'asseoir pesamment sur son lit. Il serrait les poings pour calmer le tremblement de ses mains et, le nez pincé, le sourcil froncé, paraissait plus que jamais ruminé de méchantes pensées. « Monseigneur, le chevalier de Froek, vous a déjà rapporté l'essentiel, » intervint l'archichapelain. « Il ne serait pas sage d'interroger ce témoin dans l'état qui est le vôtre. Tempérez votre courroux, examinez froidement la situation, et plaise au resplendissant que vous y voyiez un peu plus clair. Demain matin, vous aurez discipliné vos émotions, et ce frère sergent sera mieux à même de répondre à vos questions. »
« Mes questions !» ricana le comte. « Ce n'est point en disputant comme des clercs que nous sortirons de l'impasse. »
Haussant les épaules, il ajouta pourtant « Mais vous avez raison. J'ai besoin de brider ma colère afin d'en faire un bon destrier et non un cheval fou. La nuit porte conseil. J'accorderai audience à ce frère Vinmer demain matin. Qui sait ? Il en sortira peut-être quelque chose. Il faudra bien qu'il en sorte quelque chose. J'ai trop besoin d'agir. Si je ne dénoue pas cette situation, je pourrais tuer n'importe qui. » Le château de Neuwiedine commença à s'animer avant le chant du coq. Mais couchés dans un coin de cour, Nem et Kell n'ouvrirent pas l'œil. Au cours de la nuit, à peine avaient-ils terminé de s'occuper des chevaux, ils avaient été appelés au donjon pour désarmer leur maître. Le chevalier de Vaumacel était resté dormir à l'étage noble, mais la place y manquant déjà pour les seigneurs et les chevaliers, le vieil écuyer et le petit page avaient été contraints de quitter les lieux. Les salles des gardes, les communs, jusqu'aux écuries et aux greniers étaient combles. Après avoir soigneusement remballé les pièces du grand harnois, ils s'étaient donc contentés d'une portion de pavé, sous un contrefort de la tour réale. La nuit tirait alors à sa fin. Malgré l'air un peu cru et la dureté du sol, ils avaient sombré dans le sommeil sitôt couché. Avec le point du jour, le château s'éveillait. Des passereaux chantaient dans la fraîcheur de l'aube. Quelques coqs s'adressaient des défis enroués. Un chien lança son aboiement. On entendit des chevaux s'agiter dans leur stalle. Des portes étaient ouvertes et fermées, quelques pas résonnaient dans la cour ou faisaient craquer le plancher des hours. Des voix ensommeillées échangeaient des paroles brèves. Puis, comme le soleil levant dorait l'énorme masse du donjon, la place forte secoua sa garnison. Les conversations devinrent brouhaha. Les bûches destinées au grand âtre des cuisines furent déchargées avec fracas. Les fers des premiers chevaux sortis de l'écurie sonnèrent sur le pavé. Sans même se réveiller, Kell tira sa couverture jusqu'au front et poursuivit sa nuit. Le vieux Nem, un peu ankylosé, s'agita faiblement, souleva une paupière, la referma et replongea dans une somnolence lasse. Il était d'ordinaire matinal, mais l'étape de la veille avait été si harassante qu'il s'octroya encore un somme. L'écuyer avait l'impression de n'avoir replongé qu'un instant quand il fut réveillé par un cri d'enfant. Il ouvrit grand les yeux, saisi par un pressentiment funeste. Les gémissements retentissaient toujours, mêlés de gros sanglots. Nem se redressa sur son séant et s'assura d'abord de Kell. Le page se trouvait à côté de lui. Il dormait encore à poings fermés. Des voix d'adultes se joignaient à présent au tumulte. Elles n'avaient rien d'alarmant, mais exprimaient plutôt la désapprobation, voire un rien d'amusement. L'enfant n'en hurlait pas moins, poussant des plaintes à fendre l'âme. Cela venait du milieu de la cour, autour du puits, où se formait un petit attroupement. Repoussant sa couverture, Nem se leva et partit aux nouvelles.
« Ce n'est rien, » le renseigna un varlet en haussant une épaule. « C'est juste la fille du queue. Elle a laissé choir sa poupée dans le puits. La nigaude. À vouloir la récupérer, elle a failli la suivre. »
Tandis que commençaient à s'élever quelques rires,
Nem entrevit une solide matrone, l'air revêche, qui entraînait Manu Militari, une petite fille, vers les communs. Le Boutchou essayait en vain de se soustraire à sa poigne.
« Joliette, Joliette, je veux Joliette !»
larmoya-t-elle.
« Ta Joliette, t'avais qu'à bien la tenir !»
lui remontra la commère.
« Voilà ce qui arrive quand on n'est point soigneux de ses affaires !»«
Mais c'est point ma faute !»
piailla la petite.
« C'est pas moi qui l'a perdue, c'est Agnel. C'est Agnel qui me l'a volée pour l'acheter dans le puits !»
Le vieil écuyer suivit un instant des yeux ce duo, puis, tournant soudain les talons, il revint vers son coin de bivouac. D'un geste sec, il arracha la couverture de Kell. Le garçon grogna un peu en se retournant. Menem se pencha vers lui et, le saisissant au collet, le mit brutalement sur pied.
« Eh, mais ça va pas !»
protesta le page en se débattant. Le vieux valet d'armes le scruta un instant d'un air sévère, puis lui demanda.
« Qu'est-ce que tu as fait à cette petite ?»«
Hein? Mais de quoi vous parlez ?»«
La fille du queue. Quel mauvais tour lui as-tu joué ?»«
Qui ça? Mais j'ai rien fait, qu'est-ce qui vous prend ?»
Les yeux de l'écuyer s'étrécirent de façon menaçante. D'un mouvement infime du menton, il indiqua la direction des communs.
« Tu l'entends aussi bien que moi » gronda-t-il.
De fait, les pleurnicheries de la fillette résonnaient encore sur le seuil des cuisines.
« C'est pas moi, c'est pas moi »
piaillait-elle.
« C'est Agnel qui a été méchant !»
Bien que le poing de l'écuyer lui haussa la tête et le força à se tenir sur la pointe des pieds, qu'elle lui décocha un sourire insolent.
« Bien sûr, je l'entends très bien, la geignarde. C'est pas moi qu'elle accuse. »
« Ne me prends pas pour un imbécile. »«
Je ne me permettrai pas. C'est juste l'âge, je sais bien. Vous devenez un peu dur d'oreille. »
Le vieux Nem prit visiblement sur lui pour ne pas lever la main sur le freluquet.
« Cette nuit, j'ai bien vu ton manège avec cette petite. Tu jouais au chat et à la souris avec elle. Tu lui as même confisqué cette poupée qui est tombée dans le puits. »«
Ah bon, vraiment? La poupée est tombée dans le puits ?»«
Et maintenant, c'est avec moi que tu oses te livrer à tes petits jeux. »
« Mais vous ne l'entendez vraiment pas? Elle dit que c'est Agnel !»«
Ne rechute point dans tes mauvaises manières, Kell !»«
C'est incroyable quand même, vous perdez la tête! Et puis vous m'étranglez à la fin !»
Du coin de l'œil, le page eut l'air de découvrir quelque chose. Il pointa le doigt vers le donjon.
« On se donne en spectacle !» grimaça-t-il. « Et on ne passe pas inaperçu !»
Nem ne relâcha pas tout de suite sa prise. La suspicion se peignait sur ses traits. Au bout d'un instant, il jeta néanmoins un regard vers la tour maîtresse. Il réalisa alors que le garçon, sans pour autant avoir menti, ne lui avait pas dit l'entière vérité. Au sommet de l'escalier extérieur du donjon, accoudé à la balustrade, leur maître les observait de loin. Le vieil écuyer libéra à regret le page.
« Tel est pris qui croyait prendre !» persifla le jouvenceau en se rajustant.
« À ta place, j'en rabattrai !» rétorqua Nem. « Nous verrons bien ce qu'en pensera Siredan. »
Une fois qu'il eut constaté que ses deux valets d'armes s'étaient séparés, le chevalier de Vaumacel descendit dans la cour et les rejoignit.
« Le comte va tenir une audience, » leur apprit-il. « À cet effet, j'ai besoin de me rendre présentable. Monseigneur Anguzel nous charge également de mander le frère Winmer. Kell, tâche de le dénicher dans la basse-cour et veille à lui rendre figure humaine. »
Le page allait s'éclipser, quand Nem le retint et résuma en quelques mots ses soupçons à son sujet. Le chevalier l'écouta sans manifester de sentiments particuliers. Toutefois, alors que le petit drôle s'esquivait de rechef, son seigneur le rappela à lui.
« J'ai changé d'avis, » dit-il uniment. Nem s'occupera du frère Winmer. Kell, tu m'assisteras dans ma toilette. » Le page fit mine d'acquiescer avec docilité, mais lança par-dessous un regard noir à Nem. Le vieil écuyer l'ignora en retour. Il partit tirer de l'eau du puits, se débarbouilla rapidement, et après un coup de peigne, prit la direction du châtelet d'entrée. Les étuves de Neuvidine,
ayant été transformé en réserve en prévision d'un siège, Edan de Vaumacel ne put prendre de bain, ni même se laver en toute intimité. Cela ne le formalisa guère. Habitué à la vie de camp, il se dévêtit au vu et au su de tous au milieu de la cour. Son torse était encore serré dans un bandage. Lorsque le page lui eut rapporté un seau d'eau, le chevalier déroula les bandes et nettoya la blessure qu'il avait sous l'aisselle droite. La plaie, peu étendue et de section triangulaire, ressemblait à la trace imprimée par un coup d'estoc. Elle était d'aspect sain et ne tarderait plus à se refermer, ajoutant son stigmate aux nombreux bourrelets cicatriciels qui zébraient les bras et le buste du preux. Après avoir fini ses ablutions, le chevalier reçut l'assistance de son page pour refaire son pansement. Puis, toujours torse nu, il s'assit sur un coffre pour se faire raser. Lui ayant humecté le visage, le freluquet lui passa le couteau sur les joues avec une désinvolture de vieux barbier. « Quelle ?» demanda tranquillement le sire de Vaumacel. « Quelle est donc cette histoire de poupée et de puits ?»«
Aucune idée !» répondit le page en lui lissant le menton de sa lame. Nem s'est levé du pied gauche. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué.
Tu n'as donc rien à te reprocher.
Il ne manquerait plus que ça. Après la chevauchée d'hier et tout le travail qu'il a fallu abattre dans la nuit, comment est-ce que j'aurais pu avoir l'idée d'une farce bête et méchante?
Dans ce cas, pourquoi Nem te soupçonne-t-il?
La petite a crié le nom d'Agnel, il a confondu avec mon nom. C'est l'âge, que voulez-vous? Il se fait un peu sourd.
Moi non plus, je ne rajeunis pas. Crois-tu que je deviens un peu sourd, Kel?
En tout cas, jamais vous n'entendrez ces mots de ma bouche.
Et crois-tu que j'ai la vue qui baisse?
Vous y voyez toujours assez pour allonger de beaucoup de lances.
Je ne risque donc point de prendre des vessies pour des lanternes.
Ça crève les yeux. La preuve, vous ne me rudoyez pas comme la vieille brute.
Tu as raison, dit doucement son maître en arrêtant le rasoir. Il ne sait point s'y prendre correctement avec toi.
Sans crier gare, il allongea une grande gifle au petit serviteur. Qu'elle n'avait pas vu venir le coup, qui avait été asséné avec toute la force du bras. Le garçon tourbillonna sur lui-même, éparpillant serviettes et couteaux, avant de choir sur le pavé. Il n'eut pas le temps de reprendre ses esprits, le chevalier était déjà sur lui, et le maintenait au sol sous son genou.
« Tu mens comme tu respires, Kel. »«
Mais puisque je vous dis que je n'y suis !» Le garçon ne parvint pas à en dire plus. Appuyant de tout son poids sur sa poitrine, son maître venait de lui couper la respiration.
Voici peut-être le moyen de mettre un terme à tes mensonges, dit-il froidement, avant de relâcher la pression. En libérant le page, le chevalier retourna tranquillement s'asseoir sur son coffre. Redressé sur son séant, le freluquet reprenait son souffle, l'air plus furieux qu'effrayé, en comprimant ses côtes. Un hématome ne tarderait pas à se former au coin de son œil et une de ses lèvres saignait. Les curieux qui s'étaient arrêtés devant la scénette s'en désintéressèrent. Certains riaient de la correction.
« Dépêche-toi !»
s'impatienta Edan. « Nous n'avons pas fini. »«
Ce n'est pas juste !»
protesta Kel.
« Je prends pour quelqu'un d'autre !»«
Dis-toi plutôt que tu prends pour toutes les autres fois. » Tu as beaucoup de chance que cet enfant n'ait pas eu d'accident.
Vous finirez par me tuer pour rien. Ce jour-là, nous serons bien avancés, vous et moi.
Alors, donne-moi toutes les raisons de ne point commettre pareille erreur. Le page s'épousta, essuya de la main le sang sur sa figure, puis ramassa la serviette et le rasoir. Le chevalier leva le menton pour lui exposer la gorge. Dans la main du garçon, le couteau frémit légèrement. « Je sais que tu en es parfaitement capable, » énonça Edan. « Et si tu le faisais,
Tu n'ignores pas ce qui s'ensuivrait. »
Kell posa le fil de la lame sur l'artère de son maître. Son joli minois était encore bouleversé de colère.
« Il ne vous en reste plus beaucoup, »
murmura-t-il sur un ton venimeux.
Il m'en reste bien assez pour te châtier.
Sans moi, le pacte avec la dame serait rompu.
C'est pourquoi je te garde à l'œil.
Un jour, je serai grand. Et ce jour-là...
Ce jour-là n'est pas pour demain. Pour l'heure, ravale ta bile et termine ce que tu as commencé.
Le garçon inspira à fond pour se calmer. L'ombre d'un sourire parcourut sa bouche tuméfiée. Il parut faire contre mauvaise fortune bon cœur et, penché sur le chevalier, se remit à le raser.